Imaginez un instant. On est au milieu d'un grand hall et là, un escalier monumental. Mais pas juste des marches pour monter, hein.
Non, une vraie sculpture. Exactement. Une forme en acier, presque, organique qui s'enroule sur elle-même. La question c'est, comment on passe de cette vision, de cette esquisse, à un objet réel, solide? Et surtout, la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui, comment on fait ça en 4 heures? Voilà.
4 heures.
C'est le chiffre qui change tout. Quand on sait que ce genre de projet peut prendre des semaines, voire des mois, ce chiffre paraît presque provocateur. On se demande où est l'astuce.
C'est ça. Et pour comprendre cette prouesse, on va s'appuyer sur un article vraiment très détaillé de Syntech qui décortique le travail d'un expert, Aurélien Blanc. L'idée, c'est de voir comment une combinaison très spécifique de logiciels, le trio Rhino, Grasshopper et Tekla Structures, permet d'arriver à ça.
Et notre mission, si on peut dire, ce n'est pas juste de lister des outils.
Non.
C'est de comprendre la méthode de travail, le workflow. On va voir comment ce processus fait le pont entre, d'un côté, une modélisation 3D très libre, très créative, et de l'autre, les contraintes très strictes de la fabrication.
Ce fameux dialogue entre le designer et l'ingénieur.
Exactement. C'est souvent là que ça coince. Et c'est là que cette méthode semble exceller. Alors, allons-y. Le cas d'étude, c'est donc cet escalier en colimaçon. Pour qu'on se le représente bien, l'article donne des détails. 19 marches, 2 limons. Et surtout, un garde-corps à la géométrie hyper complexe. On est loin de l'escalier en kit, ça c'est sûr.
Ah oui, carrément.
Et ce qui est intéressant, c'est que la source mentionne d'autres logiciels très connus, comme SolidWorks ou Bocad. Ce n'est pas pour rien. C'est pour souligner que le choix de ce trio, Rhino, Grasshopper et Tekla, ce n'est pas un choix par défaut.
C'est une stratégie. C'est une décision stratégique, pensée pour un défi bien précis. Une pièce unique, non répétitive. D'accord. Alors, décomposons ce fameux trio. Si on devait donner un rôle à chaque logiciel, ça serait quoi?
Chaque outil a une mission très claire. Le point départ, la toile blanche, c'est Rhino 3D. C'est le logiciel de modélisation 3D libre. Très prisé pour créer des formes complexes, des courbes.
La partie artistique, en quelque sorte. Voilà. Dans ce cas, il est utilisé avec un module, Visual Arc, qui sert à poser la base de l'escalier très vite, en respectant les normes. L'article donne les chiffres, d'ailleurs. Giron de 280 mm, hauteur de marche de 160 mm. En gros, on a un squelette fonctionnel en quelques clics.
Ok, donc Rhino pour le squelette. Mais comment on passe de ce squelette à la forme si particulière du garde-corps?
Et c'est là qu'arrive le deuxième acteur, et sans doute le plus fascinant, Grasshopper. Il faut l'imaginer comme le cerveau de l'opération. C'est un module à l'intérieur de Rhino dont le rôle est d'automatiser et de paramétrer la conception.
Alors paramétrer, j'entends ce mot partout. Concrètement, ça veut dire quoi?
Si je suis l'architecte et que je dis « finalement, je veux 20 marches, pas 19 », je n'ai pas besoin de tout redessiner.
C'est exactement ça. Vous changez juste un chiffre, le 19 en 20, et Grasshopper récalcule et redessine tout l'escalier, y compris le garde-corps complexe. Tout s'adapte automatiquement.
D'accord, je vois. La puissance est colossale.
Ah oui, c'est un gain de temps énorme.
Donc, Rhino pour la forme, Grasshopper pour l'intelligence de la forme. Reste le troisième, Tekla Structures. Quel est son rôle à lui?
Tekla Structures, c'est la destination finale. C'est le logiciel qui parle le langage de l'atelier, de l'ingénieur. Il prend le modèle 3D, qui est encore une vision d'artiste, et il le transforme en un plan de fabrication ultra détaillé.
C'est là qu'on ajoute les soudures, les boulons, ce genre de choses?
Exactement. Les assemblages, les plans de découpe pour les machines. Tekla garantit que ce qui a été dessiné est réellement constructible. C'est le jumeau numérique qui part à l'atelier.
C'est limpide. On part du créatif pour arriver au concret. Alors, en pratique, comment ça se passe? L'article parle d'une première étape de modélisation où les limons sont transférés vers Tekla en tant que poutre débillardée.
Oui.
En utilisant des courbes de référence. Ça a l'air d'être un détail important. Hein.
C'est plus qu'un détail, c'est un point absolument fondamental.
Attendez une seconde. Poutre débillardée. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas ingénieurs, ça veut dire quoi au juste? On parle de poutres qui se tordent dans l'espace, c'est ça?
C'est une excellente façon de le dire. C'est une poutre qui se courbe et se torde dans les trois dimensions en même temps. Une des formes les plus complexes à fabriquer.
D'accord.
Et c'est là que les courbes de référence sont géniales. Ce sont des sortes de rails invisibles créés dans Rhino qui vont guider Tekla pour qu'il reconstruise cette forme complexe avec une précision mathématique.
C'est le traducteur parfait entre les deux logiciels.
C'est ça. Sans ça, la moindre imprécision rendrait la pièce impossible à assembler. C'est vraiment le premier secret d'un workflow qui fonctionne.
Ok, le squelette est en place. Mais le morceau de bravoure, c'est ce garde-corps. L'article dit que sa forme a été inspirée de photos et que c'est là que Grasshopper devient spectaculaire.
Oui, l'approche est très élégante. D'abord, dans Rhino, le designer modélise la forme globale du garde-corps, comme une sorte de volume plein, une coque. Ensuite, le script Grasshopper prend le relais.
Et il fait quoi, ce script?
Est un plan vertical, et à chaque intersection, ça génère une courbe, une tranche. La somme de toutes ces tranches, ce sont les lames du garde-corps.
Ah, j'aime bien l'analogie. Donc le script, il se contente de trancher le modèle, ou il est plus malin que ça?
Beaucoup plus malin. D'abord, il optimise les courbes pour qu'elles soient parfaitement interprétables par Tekla. Ensuite, il peut filtrer. Par exemple, il peut identifier les plans qui tombent pile au niveau d'une marche et les traiter différemment.
D'accord, il est intelligent.
Et troisièmement, il gère des informations complexes, comme l'épaisseur du métal qui peut varier d'une lame à l'autre. C'est vraiment de l'automatisation au service du sur-mesure.
C'est bluffant. Je comprends comment il dessine, mais à un moment, il faut bien que quelqu'un dise à l'atelier, cette pièce est en acier de 8 mm et elle est peinte en noir. Comment cette info passe-polue?
Et c'est là que le workflow est si robuste, c'est encore Grasshopper. En même temps qu'il génère chaque plat, c'est le terme technique pour les lames, il leur attache une carte d'identité complète.
C'est-à-dire.
Le matériau, la classe de la pièce, sa phase de montage, son profil, toutes ces données vitales sont injectées à la source. Pas de ressaisie manuelle, donc pas de risque d'erreur.
L'article donne un autre exemple avec les poignées, je crois, avec des congés.
Absolument. Les congés, ce sont les bords arrondis. Plutôt que de les dessiner un par un, le script les applique automatiquement et il adapte même le rayon de l'arrondi selon l'emplacement. C'est un niveau de détail qui serait...
Extrêmement fastidieux à la main.
Voilà. Et là, ça devient instantané. Si on veut des arrondis plus grands, on change une seule valeur et tout le modèle se met à jour.
Ok, tout ça a l'air incroyablement efficace, ce qui nous ramène à notre chiffre du début. 4 heures. L'article le décompose 2 heures pour modéliser la coque dans Rhino, 2 heures pour programmer le script Grasshopper qui envoie tout dans Tekla. Comment c'est possible?
Ben, c'est le résultat direct de tout ce qu'on vient de dire. La flexibilité pour les formes complexes, la précision du transfert d'infos et l'intégration des données de fabrication dès le départ. La machine fait le travail répétitif, l'humain se concentre sur la logique.
Mais, parce qu'il y a un mais, en lisant l'article, je suis tombée sur une petite phrase, presque une note de bas de page, qui change toute la perspective.
Ah, je vois très bien de laquelle vous parlez. La source précise que l'auteur de ce workflow, Aurélien Blanc, a 27 ans d'expérience sur Rhino et 10 ans sur Tekla. Du coup, la question qui fâche, est-ce une recette miracle ou est-ce une solution réservée à une poignée d'experts? Est-ce que c'est vraiment réplicable? C'est la question la plus importante et vous avez raison. La source est très claire là-dessus. L'efficacité repose intégralement sur la maîtrise des outils. La puissance de cette combinaison est immense, mais elle n'est débloquée que par une expertise humaine très profonde.
Il ne suffit pas d'avoir les bons logiciels.
Non. Il faut, dès le début dans Rhino, anticiper les contraintes de Tekla. Il faut savoir comment structurer son script pour qu'il soit robuste, efficace. C'est une vision globale.
Donc, en gros, la magie ne vient pas de la baguette, mais du magicien qui la tient. C'est exactement ça. Le workflow est un outil surpuissant, mais c'est l'expérience de l'artisan qui permet de faire des miracles. C'est ce duo outil puissant plus expert compétent. En résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas juste un assemblage de logiciels, c'est une véritable méthode de travail, un écosystème qui crée un pont quasi parfait entre la liberté créative et la rigueur industrielle. Et c'est cette méthode, pilotée par un expert, qui permet de donner vie à ces pièces architecturales uniques.
Le point clé, c'est vraiment cette connexion. Faire dialoguer un outil centré sur la créativité, comme Rhino, avec un outil centré sur la donnée de fabrication, comme Tekla. Grasshopper, au milieu, c'est le traducteur universel qui s'assure que tout le monde parle la même langue.
L'article se termine d'ailleurs sur une question ouverte, en se demandant si d'autres combinaisons logicielles pourraient faire encore mieux.
Et ça nous laisse avec une réflexion fascinante, non? Dans ce monde numérique où tout évolue si vite, est-ce que le workflow parfait est une destination fixe qu'on peut atteindre une bonne fois pour toutes?
Ou est-ce que c'est plutôt une cible mouvante?
Exactement. Une cible qui se réinvente avec chaque nouveau projet, chaque nouveau défi. La vraie magie, finalement, n'est peut-être pas dans les outils eux-mêmes, mais dans l'ingéniosité de ceux qui, comme cet expert, continuent de les réinventer pour rendre possible ce qui semblait irréel. Quelle sera la prochaine combinaison qui nous permettra de construire l'impossible en quelques heures ?